Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sénégal, Mali, du soutien indéfectible aux actes concrets. Quel partenariat pour faire face au terrorisme sur le thème du Grand Dialogue de ce soir. En visite à Bamako, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que le président Assimi Goïta peut compter sur le soutien du Sénégal. Une déclaration forte qui intervient après les récentes attaques terroristes contre les forces armées maliennes. Mais au-delà des mots, quelle forme peut prendre ce soutien? Quels sont les leviers et les limites d'une coopération sécuritaire entre deux États confrontés à des réalités politiques et militaires différentes? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos deux invités, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, Dr Souleymane Diallo, également enseignant-chercheur. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Le président sénégalais est venu présenter les condoléances du peuple sénégalais condamné avec fermeté les attaques terroristes et réaffirmer la solidarité de Dakar envers Bamako. Il a également insisté sur la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la coopération bilatérale, la redynamisation des organisations régionales, le fait que le terrorisme ne connaît pas des frontières. Suivons donc sa réaction.
Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et lui renouveler à lui et à son gouvernement, mais aussi au peuple malien frère, nos condoléances émues à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats. Naturellement, nous avons eu l'occasion d'aborder d'autres points au cours de nos échanges, tenant compte aux questions de paix et de sécurité au niveau de la sous-région, mais notamment sur les voies et moyens de lutter efficacement contre le terrorisme qui ne cesse de s'étendre et menace toutes nos populations. Car je l'ai redit, la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix, à la stabilité dans toute la région et au-delà dans tout le Sahel. Parce que ces menaces, nous en avons convenu, ne connaissent pas de frontières et se renforcent avec nos divisions. Nous avons aussi discuté des perspectives de renforcement de la coopération pour relever ensemble les défis, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre des instances régionales où le Mali et le Sénégal sont membres. Et je me réjouis de notre parfaite convergence de points de vue sur les principales questions que nous avons abordées. Et j'ai dit au président Goïta qu'il peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal. Et je lui ai réaffirmé notre présence et notre engagement aux côtés du Mali ainsi que tous les autres pays pour relever ensemble les défis communs.
Le président Faye évoque le soutien indéfectible du Sénégal, Dr Abdoul Sogodogo. Que signifie réellement un soutien indéfectible?
Merci Imran pour cette invitation. Bonsoir ou bonjour à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. Je voudrais dire que par soutien indéfectible, il faut comprendre là que c'est un engagement politique ferme pour dire que le Sénégal, le gouvernement sénégalais a bel et bien conscience du défi commun entre ces deux pays, même en réalité au-delà de ces deux pays. C'est la question de la sécurité et de la paix aujourd'hui qui au Sahel est un défi collectif pour l'ensemble des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que, effectivement, dans ce discours-là de soutien ferme, je le comprends dans le sens que le président sénégalais ne fait pas de doute, il ne laisse pas de place au doute sur le besoin d'aller vers des actions communes, d'agir de concert, et d'ailleurs même, il le dit dans ses propos, ce phénomène le terrorisme se renforce ou d'insécurité, quelque part aussi grâce aux divisions politiques qui existent entre ces États-là. Donc justement, c'est en réduisant ces divisions, en convergeant vers des intérêts communs, bien pensés, bien réfléchis, notamment par les différents États.
Mais s'agit-il d'un soutien politique, diplomatique, économique ou militaire?
Je pense que c'est un soutien qui se doit d'être holistique entre les différents acteurs, qui doit intégrer à la fois les dimensions politiques. Par dimension politique, ça veut dire que sur la scène internationale, ces pays doivent apprendre à parler d'une seule voix. Par exemple, que ce soit au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'ONU, pour voir comment est-ce que l'action collective de sécurisation et de paix dans cet espace doit être pensée et conduite sur le plan économique. Comment est-ce que ces différents acteurs doivent développer des résiliences économiques, renforcer le commerce, en tout cas l'économie dans la région. Comment est-ce que ces acteurs doivent essayer de promouvoir, de contenir les mouvements de déplacement dans cet espace-là? Vous voyez, c'est plusieurs domaines qui vont être touchés à la fois. On ne peut pas résumer peut-être la collaboration aujourd'hui entre le Sénégal et le Mali à un seul aspect diplomatique ou politique. D'accord. Cela inclut ces aspects, bien sûr, qui sont des accès très importants. Mais ça inclut aussi même des dimensions culturelles. Il y a une identité aujourd'hui qui se trouve quelque part menacée.
D'accord. Que faut-il comprendre, docteur Souleymane Diallo, derrière cette expression « soutien indéfectible »
Ok. Bonsoir à Douanier. Bonsoir à chers auditeurs et chers téléspectateurs. Par rapport à ces soutiens, moi je comprends, comme l'a si bien dit le douanier, non seulement ça doit avoir, comme on appelle, une collaboration France, mais en y apportant des moyens militaires, des moyens économiques, des moyens logistiques, voilà. Donc tout au-delà de la politique, voilà, il y a la sécurité qui est là, l'identité qui est là, le social qui est là. Donc, vraiment, ils doivent parler d'un seul langage pour être écoutés ailleurs, parce que c'est des voisins. Si vous vous êtes pas, en tout cas, vous, si vous parlez pas du même langage, comment est-ce que vous serez écouté sur la tribune internationale? Donc, voilà, le dialogue doit être là, l'entente doit être là, c'est ça.
Quel message cette visite renvoie-t-elle au groupe terroriste?
Ça doit en tout cas alarmer, ça doit alarmer tout le monde, non seulement les terroristes, mais aussi les partenaires des terroristes, dire que voilà, désormais, ces deux pays-là parlent du même langage, il faut faire énormément attention. Parce qu'au-delà de ces discours-là, moi je vois... Voilà, comment on appelle, l'apport d'un moyen militaire, sécuritaire, en tout cas colossal, que ces deux pays-là vont en tout cas entamer. Donc, ça ne va pas échouer.
Voilà. Cette visite, selon vous, marque-t-elle un tournant dans les relations entre Dakar et Bamako?
Effectivement, ça marque un tournant, en tout cas très, très décisif. Et un tournant, voilà, très décisif, puisque... Quand on parle du terrorisme, c'est comme un cancer. Voilà, ça gangrène toutes les sociétés et ça perfore, en tout cas, les frontières. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre le Mali et le Sénégal, il y a à peu près 450 kilomètres de frontières. Donc, de frontières en tant que frontières que les humains ont dressées. Et 650 kilomètres... par rapport à la Falémée, ça c'est la frontière naturelle. Donc, qui parle de ces frontières-là, donc parle en tout cas de la sécurisation très très confirmée. Sinon, le terrorisme, ça ne ment pas. C'est un cancer. Voilà, donc dans ce sens-là, je dirais que vraiment c'est un renforcement d'amitié politique, militaire et sécuritaire.
Le terrorisme est un cancer, voilà. Selon le docteur Souleymane Diallo. Cette visite est intervenue après celle du nouveau président béninois, du président de la Commission de l'Union africaine. Est-ce à dire que l'AES est en voie de normalisation avec la CEDEAO et l'Union africaine, quand on sait que le président Bassirou Diomaye Faye porte également la casquette du président de la CEDEAO?
Je ne dirais pas en voie de normalisation, parce qu'en réalité, même si les trois pays, le Mali, le Niger et le Sénégal se sont retirés effectivement de la CEDEAO, mais depuis ce temps-là, ces relations n'ont pas été des relations violentes. Il n'y a pas eu une décomposition en réalité de l'espace ouest-africain. Mais ce que j'ai pu observer, c'est plutôt c'est-à-dire une réorganisation en réalité. En réalité, parce que les deux entités...
Une réorganisation dans quel sens?
Bien sûr, une réorganisation dans le sens où, vous voyez, il y a beaucoup d'acquis que ces pays ont pu mettre en place, notamment si je fais allusion à la libre circulation des personnes et des biens, cela a été maintenu. Donc, il y a beaucoup de coopération entre ces différents pays qui ont été maintenus. Et c'est vrai qu'aux premières heures, beaucoup de gens avaient pensé que c'était carrément un effondrement de l'espace ouest-africain, que désormais le Malien ou le Burkinabé ou le Nigérien allait prendre une carte de résidence, peut-être au Sénégal, au Bénin ou au Togo, etc. Mais on en est loin. Donc je pense que, il y a des questions sur lesquelles il y a eu des mésententes très importantes. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup d'interprétations, des réactions très variées d'un côté ou de l'autre, et qui justifie aussi le retrait des trois pays de cette organisation, parce qu'à un moment donné, ces sanctions ont été pensées comme des initiatives, non pas forcément qui devraient forcément amener les trois pays à rejoindre rapidement, c'est-à-dire à sortir rapidement des transitions, mais ça a été pensé aussi de leur côté comme étant un étranglement, n'est-ce pas? Voilà, politique et économique de ces pays-là. Donc, vous voyez, c'était très difficile. Mais pour autant, ces deux entités n'ont jamais arrêté les négociations. Je me rappelle, quand Diomaye Faye venait d'être nouvellement élu, il a été chargé par la CEDEAO comme médiateur de travailler au retour de trois pays rapidement au sein de la CEDEAO, avant le délai d'une année qu'on avait donné. D'ailleurs, ce délai a été prolongé. Ça montre la volonté des deux parties toujours à redéfinir une coexistence pacifique. Donc, ce processus de négociation et de dialogue n'a jamais été interrompu. Et d'ailleurs, ça ne le devrait pas. Parce qu'au vu des réalités, quand même, qui lient ces peuples. Parce que ce n'est pas seulement une réalité politique, mais c'est une réalité socio-économique.
Mais on peut dire que le Mali est un précurseur de ce rapprochement de la CEDEAO et notamment de l'Algérie.
Je ne dirais pas précurseur aussi, c'est comme si on le faisait avant les autres, parce qu'ils sont dans une dynamique collective, donc aucun n'avance par rapport à l'autre. Vous savez, que ce soit le Sénégal, l'Algérie ou n'importe quel autre pays voisin du Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, on peut en citer tous les pays, Burkina, etc. Vous savez que aucun pays ne va déménager. Hein? Voilà, chaque pays va rester à sa place sur la surface d'Afrique de l'Ouest. Quoi. Donc, il y a des difficultés politiques qui arrivent. Ce n'est pas les premières. Ces pays ont connu des difficultés aussi très importantes. On a tendance parfois à oublier que le Mali et le Sénégal ont vécu, en tout cas si on prend le Mali moderne, hein, c'est-à-dire le Mali indépendant voilà, dans les années 1960, on a vécu une relation politique, une union politique très intense avec le Sénégal. On a créé quand même la fédération du Mali avec le Sénégal. Ça a connu les difficultés. Ben, les deux pays sont allés chacun à son indépendance. Ça a été des périodes très dures, des tensions très importantes entre les deux pays, une fermeture même des frontières. Mais les deux pays ont fini par se rapprocher et réouvrir ces frontières-là. Donc, c'est des périodes difficiles. Et tout comme le Mali a connu des périodes difficiles avec l'Algérie récemment, mais n'oublions pas que le Mali a été l'un des premiers alliés aussi de l'Algérie. Donc il y a ces périodes de tension entre les nations, mais qui se dissipent au fil du temps, parce que les États aussi sont des acteurs bien réfléchis, d'accord, qui connaissent bien leurs intérêts et qui sont capables, par des processus, de trouver des consensus, des convergences et de travailler autour d'intérêts communs.
D'accord. Docteur Diallo, est-ce que vous êtes d'avis que cette visite ne renvoie pas à une normalisation avec la CEDEAO?
Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une normalisation avec la CEDEAO, mais pour être en phase avec le Sénégal, voilà. Donc, pour être en phase avec le Sénégal, puisqu'il y a le décalage institutionnel, déjà le Mali est dans l'AES, le Sénégal dans la CEDEAO. Donc, c'est des façades, voilà. Donc, enlever ce décalage, il faut vraiment des dialogues entre ces deux pays. Voilà.
D'accord. Alors, qu'entendent concrètement les populations de cette solidarité affichée du président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO envers le Mali?
Voilà. Au-delà de la solidarité, moi, je vois autre chose. Ça, c'est le renforcement, comme je l'ai dit, des moyens militaires, des moyens économiques, des moyens, en tout cas, commerciaux, des moyens... En tout cas, tout ce qui concerne la sécurisation du Sahel, voilà, ça concerne tout cela. Donc, ça doit être jalonné par des actions concrètes, voilà, des actions concrètes, puisque s'il n'y a pas de franchise, en tout cas, tout va à volo. Comme je l'ai si bien dit, le terrorisme, c'est un cancer. Donc, ça va perforer, continuer de perforer les frontières. Donc, ces deux pays-là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. À vivre ensemble et à s'entraider. Voilà. Donc, le dialogue doit être franc et les relations diplomatiques et militaires doivent être franches aussi.
D'accord. Alors, quels résultats les citoyens de ces deux pays pourront-ils mesurer dans les prochains mois?
Dans les prochains mois, ça veut dire qu'il y aura les changements. Il y aura les changements si vraiment, si toutefois, en tout cas, ce que Diomaye Faye a dit, si ça se concrétise tout de suite, voilà, ça veut dire qu'il y aura quelque chose. Ça veut dire que les situations vont changer. Comme je l'ai si bien dit, par rapport à la Falémé, par rapport à l'ouest du Mali, Kayi, pour quitter Dakar, venir à Kidira, de Kidira à Diboli, Diboli-Bamako, ce périple-là, c'est tout un tas de problèmes. Donc, ça veut dire que tout va changer désormais, puisqu'on a eu tellement de problèmes avec même l'acheminement des carburants. Donc, il faut que les populations sachent promener librement, hein, à l'air, en tout cas à l'air aise, et les matériels aussi, qu'on sache vraiment les acheminer facilement. Sinon, les professionnels, en tout cas, tout le monde va subir les conséquences. Et non seulement le Mali et puis le Sénégal. Il faut se dire que, voilà, dans leur amitié, en tout cas dans leur coopération, le Mali et le Sénégal, c'est la relation gagnant-gagnant. Je peux te dire qu'en 2024, le Mali était le premier partenaire, comme on appelle, le premier client du Sénégal. Leur essence avoisinait jusqu'à 1,31 milliard de dollars. Et en 2026, c'était à, comme on appelle, les exportations du Sénégal vers le Mali, c'est à 40 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire que ces deux pays-là sont condamnés à vivre ensemble.
D'accord.
Vous voyez.
D'accord. Alors, quels indicateurs permettront de dire que ce partenariat progresse réellement?
Alors, à défaut de pouvoir dire avec des preuves évidentes, des chiffres, des statistiques que je ne dispose pas forcément, je vais dire si on devrait chercher des preuves aussi pour dire que est-ce que la coopération est stagnante entre ces deux pays, ça ne serait pas chose aisée aussi. Je pense que depuis la crise a commencé au Mali, si je me situe à partir de 2012 jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que le Sénégal, voilà, a été un acteur essentiellement catalyseur de la crise, c'est-à-dire que quelqu'un qui amplifie la crise. On aurait du mal à le dire. Par contre, on se rend compte que la crise que frappe le Mali, le Sénégal en a directement conscience d'un point de vue économique. Parce que le Mali étant un pays continental, l'un des ports qui utilise le mieux, c'est le port du Sénégal. Et ça fait aussi des entrées très, une manne très importante pour le Sénégal. Donc, en termes d'échanges, il y a, comme vient de le dire mon collègue, il y a des échanges commerciaux très importants entre les deux pays. Et aussi, la population malienne et sénégalaise sont très liées.
D'accord. Parce que... Alors, jusqu'où le Sénégal peut-il aller sans remettre en cause sa propre doctrine de défense dans ce partenariat?
Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez doctrine de défense du Sénégal.
De ne pas mettre en cause sa défense si toutefois le Sénégal décide d'intervenir au Mali militairement.
Mais le Sénégal est déjà intervenu militairement au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Ça veut dire que dans le cadre d'un accord bilatéral, si telle est la volonté des deux pays qu'il y ait un soutien militaire du Sénégal au Mali, il appartient aux deux pays de définir les conditions de cette opération. Cela est bien possible entre des États voisins. Et par exemple, regardez ce corridor. Ça dit que le transport logistique du Sénégal à Bamako est devenu difficile. S'il devient difficile, les deux pays ont beaucoup à perdre. Et rien n'empêche ces deux pays de conjuguer leurs efforts pour la sécurisation de ce corridor-là, pour la protection de l'acheminement des produits en provenance du Sénégal. Ce sont des choses qui peuvent être bien pensées par ces pays-là.
Mais dans ce cas précis, est-ce que le Sénégal dispose des capacités pour contribuer davantage à lutter contre le terrorisme?
Mais bien sûr qu'il dispose de capacités. Chaque pays, naturellement, est en charge de sa propre sécurité. C'est une conséquence naturelle du principe même, c'est-à-dire de la souveraineté des États. Et un pays étant en charge de sa propre sécurité, il met tous les moyens. Et parfois, la menace à sa sécurité peut ne pas être sur son propre territoire. Et donc, quand il a conscience que la menace qui le guette est chez son voisin, il peut effectivement se déployer auprès de son voisin. L'histoire humaine, on en connaît pas mal de cas où des États viennent soutenir d'autres États pour faire face à des situations difficiles à gérer. Parce que si on ne le souhaite pas, mais rien ne dit que ce que le Mali connaît aujourd'hui, qu'un autre pays de la sous-région ne pourrait pas le connaître. C'est-à-dire être frontalement en confrontation avec des groupes terroristes.
D'accord. Voilà. L'armée sénégalaise possède-t-elle une solide expérience opérationnelle?
L'armée sénégalaise, on ne peut pas dire qu'elle a quand même une capacité à surpasser l'armée malienne, puisqu'il faut voir l'armée malienne, les FAMA, depuis 2012, nous sommes dans ce conflit-là ou même dans cette guerre-là. Le Mali, aujourd'hui, dans la sous-région, nous sommes un exemple concret. C'est ce que le président Assimi a compris. Il a élargi les partenariats, en tout cas les partenariats ouverts. Mais le Sénégal reste toujours dans le système classique. Voilà. Donc, tout comme je l'ai si bien dit, le terrorisme, ça a dépassé, les niveaux classiques. Aujourd'hui, c'est un terrorisme multidimensionnel. Quand c'est multidimensionnel, il faut savoir s'adapter aux réalités du terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va quand même sauvegarder seulement son précaré. La guerre est au-delà de ça. Le terrorisme est au-delà de ça. Non seulement vous veillez sur votre territoire, vous devez encore veiller sur le territoire du voisin et à être en commun accord avec lui pour des renseignements et des informations.
Sogodogo disait tout à l'heure que le Sénégal est déjà intervenu militairement au Mali dans le cadre de l'AMINISMA. Son expérience dans les opérations de maintien de la paix constitue-t-elle un atout face aux groupes terroristes?
Si, on a si bien dit. N'a-t-on pas dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà, d'un plus petit que soi. Donc, le Sénégal a séjourné ici et sur d'autres terrains, sur d'autres théâtres, en tout cas des Nations Unies. Le Sénégal a des expériences. Mais aujourd'hui, je peux dire que le Mali a beaucoup d'expériences que beaucoup de pays dans la sous-région. Donc, le Sénégal a besoin du Mali, le Mali a besoin du Sénégal. Voilà, donc on a intérêt à être en commun accord pour bouter ce terrorisme hors des frontières. Voilà.
D'accord. Alors, nous allons partir à notre dernière partie de notre dernière séquence de ce grand dialogue. Quelle coopération concrète entre le Mali et le Sénégal?
Je crois que ça doit être une coopération gagnant-gagnant, de telle sorte que en y apportant des moyens militaires, comme je l'ai si bien dit, des moyens militaires, des moyens économiques, des moyens logistiques, voilà, qui vous bat en logistique, vous bat en guerre, qui vous bat sur le plan financier, ça veut dire que vous bat totalement aussi. Donc ces moyens économiques et logistiques là doivent être là, ces moyens militaires doivent être là, les renseignements et autres, les informations entre ces deux États doivent demeurer éternellement. Voilà.
Si des partenariats, il doit y avoir, ce partenariat pourrait-il porter sur l'échange de renseignements, la formation des forces, les expériences militaires conjointes, la lutte contre le financement du terrorisme, la surveillance des frontières, la cybercriminalité? Parmi ces domaines, lesquels sont les plus réalistes à court terme?
Le tout.
Comment?
Parce que, vous savez, nos pays, leur objectif principal depuis les indépendances, c'est le développement. Chaque nouveau État qui a vu le jour, après son indépendance, il se donne comme première mission développer un pays. Qui ne veut pas avoir un espace de vie prospère? Mais il se trouve que pour que ce développement soit une réalité, il y a des défis naturels. Parmi ces défis, il y a la sécurité. Ces groupes, qu'on les appelle groupes terroristes, groupes armés, peu importe comment on va les appeler, tant que on ne va pas collectivement gérer ce problème-là, c'est-à-dire le problème va rester pendant. Parce que si malheureusement certains pays peuvent servir d'arrière-base, alors dans notre espace, alors le problème restera tout entier. Et c'est pour cela, c'est la coopération bilatérale qui, depuis des années, qui se porte bien entre le Sénégal et le Mali, doit continuer à aller encore de l'avant. Et surtout, la pacification, la sécurisation de cet espace-là, du corridor Bamako-Dakar, est devenue plus que jamais une priorité pour ces deux pays-là. Et ça tombe bien, parce que puisque le président Diomaye Faye, aujourd'hui se trouve à la tête de la CEDEAO, il devient naturellement une croix de transmission entre la CEDEAO et les pays de l'AIS, parce que des relations privilégiées entre le Mali et le Sénégal
peuvent
avoir un impact positif justement dans la progression de la sécurité collective qui est toujours une question qui n'a jamais été abordée, qui reste toujours en gestation et qui serait définie. On a vu que la CEDEAO a pensé à un dispositif de lutte contre le terrorisme. Et j'imagine que ce dispositif de lutte contre le terrorisme trouvera naturellement une coopération avec l'AIS. Le système d'alerte précoce de la CEDEAO, qui est un système de collecte, de partage de renseignements et ECOWARN, je pense que ce dispositif, le fait que les trois pays se sont retirés de la CEDEAO, naturellement, ça a ses conséquences à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des coopérations entre ces pays-là et avec ce dispositif-là.
Mais quel engagement peuvent être pris rapidement?
D'abord, je pense que c'est des relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal qui doivent être renforcées, qui peuvent mettre en priorité la dimension sécurité. Ça veut dire qu'on peut naturellement penser à des opérations communes entre ces deux pays pour vraiment sécuriser ce corridor-là, pour le sécuriser, pour que les activités économiques, transports, etc. puissent continuer. Mais aussi, ça veut dire qu'il s'agit de travailler à pacifier globalement, comme le président sénégalais le dit lui-même dans son discours, et on le retrouve depuis la crise malienne dans les discours de tous les premiers ministres, les chefs d'État que le Mali a connus. Chacun a toujours montré l'engagement ferme du Mali à coopérer avec toutes les organisations régionales et sous-régionales pour que justement on arrive à un espace sécurisé.
D'accord.
Et ça, on le voit parce que le Mali a été membre du G5 Sahel, le Mali a été membre du CEMOC. Donc le Mali, je pense que comme les autres pays de la région, personne ne s'est inscrit dans une démarche purement nationaliste.
D'accord. Alors, le Sénégal a exprimé son intention d'intervenir au Mali et aux côtés des autres pays de l'AIS dans la lutte contre le terrorisme. Que manque-t-il aujourd'hui pour passer des intentions aux résultats?
Ce qui manque aujourd'hui, je peux dire que ça, c'est le décalage institutionnel et diplomatique qu'il faut vraiment effacer. Vu que le Mali est dans l'AES et, comme on appelle le Sénégal, dans la CEDEAO, on peut rester dans ces entités-là, mais parler du même langage. Encore, il faut y mettre les moyens militaires, voilà, les moyens militaires, en tout cas très, très sophistiqués. Il faut encore, voilà, patrouiller ensemble dans ces zones-là, voilà, pour pouvoir, en tout cas, bouter le terrorisme Donc, les informations, les renseignements, tout doit être fait ensemble, en commun, en accord et dans la franchise.
La lutte contre le terrorisme peut-elle être gagnée uniquement par les armes?
Je crois que ce n'est pas seulement par les armes. C'est encore, non seulement c'est avec les armes, mais psychologiquement. Psychologiquement, puisque une armée atteinte psychologiquement ne peut pas battre sur le terrain. Voilà, donc il faut requinquer son armée. Il faut sophistiquer, apporter des matériels de pointe. Et il faut vraiment bien préparer. Voilà, il y a tout ça, son armée. Donc après tout ça, et puis informer la population par rapport à, au lavage des cerveaux des terroristes. Que les jeunes ne doivent pas gober, à ça. Voilà.
La stabilité du Sahel dépend-elle davantage d'une approche globale que d'une réponse exclusivement sécuritaire?
La sécurité du Sahel?
Oui.
Pas seulement sécuritaire, il y a politique, il y a sécuritaire, il y a diplomatique. En tant qu'on ne parle pas du même langage, ça ne finira pas. Donc, il faut remédier ces problèmes-là dans tous les sens.
D'accord. Voilà. Le dernier mot vous revient. La stabilité du Sahel dépend-elle davantage d'une approche globale que d'une réponse exclusivement sécuritaire?
Je pense que tout porte à croire que chaque acteur aujourd'hui a tiré suffisamment de leçons pour dire que finalement, s'il est vrai que parfois on est appelé à apporter des réponses immédiates sur le plan sécuritaire, mais la crise appelle à une approche multidimensionnelle. Et d'ailleurs, même c'est comme ça que la crise a été qualifiée. Et quand on regarde même le traité de l'AIS, on dit 3D. Donc, il y a la dimension développement, sécuritaire, diplomatique qu'il faut intégrer. Donc, ça veut dire tout simplement que ça demande une approche globale, que la réponse ne va pas venir d'un seul facteur.
Merci beaucoup. C'est sur ce mot que se referme ce grand dialogue qui réfléchissait, qui avait pour thème le Sénégal-Mali, du soutien indéfectible aux actes concrets, quel partenariat pour faire face au terrorisme. Et nous étions avec Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, Dr Souleymane Diallo, enseignant-chercheur également. À la présentation, c'était Imran Akil Omega. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.